c'est Explose le cadre, le podcast qui booste votre niveau de confiance pour vous aider à prendre votre place. Chaque mois, je questionne des femmes inspirantes que je nomme affectueusement les parfaites. Ces femmes qui ont su dépasser leurs peurs, s'affranchir du regard des autres et gravir des montagnes pour réaliser leurs rêves. Elles partagent avec nous leur vécu, les expériences marquantes de leur vie et leurs meilleurs conseils. Explose le cadre, c'est plus qu'un podcast. C'est un show enrichissant et divertissant qui vous aide à passer concrètement à l'action pour devenir une femme plus confiante, forte et audacieuse. L'objectif ici est de revisiter nos croyances limitantes pour littéralement exploser notre cadre. Ici, pas de chichi, nous sommes là pour bâtir notre avenir et concrétiser nos rêves. Alors, c'est parti! Moi, c'est Christelle. J'ai créé ce podcast avec pour ambition de vous faire sortir de votre coquille et de vous aider à vous reconnaître et à considérer vos valeurs. J'ai, depuis ma plus tendre enfance, manqué cruellement de confiance en moi et d'estime de moi. Mon jeu préféré était celui de la souris. Vous savez, la fille qui rêve d'être invisible aux yeux des autres. Mais pas facile quand on a un profil atypique. Je me dévalorisais sans cesse et me jugeais durement, que ce soit physiquement comme intellectuellement. Mon dicton préféré était « je suis trop nulle ». Mais j'ai depuis eu la chance de découvrir à l'âge de 11 ans le développement personnel au travers de la sophrologie. Et je dois dire que ça a transformé ma vie. Après des années et des années de travail sur moi, je suis de plus en plus sensible à la souffrance des femmes qui m'entourent et qui vivent encore ce sentiment dévastateur. Aujourd'hui, je souhaite synthétiser tous ces apprentissages au même endroit et sous une forme ludique, mais surtout sans prise de tête. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, je vous propose de commencer. Vous écoutez l'épisode numéro 12. Bienvenue! En première partie de cet épisode, nous recevons Laura Larivière. En deuxième partie, mon acolyte Sylvain, coach de vie, nous présentera son avis et ses meilleurs conseils pour appliquer dès aujourd'hui les enseignements prodigués par notre invité. Et enfin, je conclurai sur la rubrique plan d'action dans laquelle je vous propose des étapes claires et simples à mettre en œuvre en attendant l'épisode du mois prochain. Alors n'attendez plus, et comme le disait Oscar Wilde, agissez et prenez votre place parce que les autres sont déjà prises. Bonjour Laura, bienvenue.
Salut Christelle, merci.
Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet épisode, et je commence tous mes épisodes par la même question. C'est un peu une prise de température, mais en réalité, il s'agit plutôt d'une prise de confiance. Alors, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de confiance en toi, de manière générale, dans ta vie?
C'est une question qui est super compliquée, de prime abord, comme ça. Alors, je peux te donner deux échelles.
Ouais, vas-y.
La première, je dirais que c'est l'échelle qui représente l'évolution que j'ai pu observer sur la prise de, enfin sur ma prise de confiance en moi entre le moment où j'ai commencé à devenir entrepreneur et maintenant. Donc, je pense qu'en termes d'évolution, on pourrait mettre un petit 8 sur 10. Et en termes de de confiance en moi à l'heure actuelle, on va dire 6,5. C'est déjà bien. Je considère que c'est un peu plus que la moyenne.
Super.
Alors, pour continuer cette mise en bouche et faire plus ample connaissance, je te propose de faire un portrait chinois.
Ok.
Alors, si tu étais un dessin animé.
Si j'étais un dessin animé, je serais Fifi Brin d'Acier.
Si tu étais une mauvaise habitude.
Si j'étais une mauvaise habitude, je serais celle qui... Le perfectionniste. Le perfectionnisme, c'est bien.
Si tu étais un sport.
Si j'étais un sport, je serais du yoga, je pense.
Si tu étais un livre.
Waouh. Si j'étais un livre, je serais... Ma marque et moi, de Marie Beauchesne.
Si tu étais une pièce de la maison.
La cuisine.
Si tu étais un élément.
L'eau.
Si tu étais une cause.
Je serais... l'entrepreneuriat au féminin.
Si tu étais un animal.
Un papillon.
Et si tu étais un outil.
Un CRM.
Ça marche. Et donc, pour embrayer sur la première vraie question de cette interview, j'ai envie de te demander, quelle humaine es-tu ?
Quelle humaine je suis ? Waouh, c'est une belle question. Alors, à travers le pro, le perso, les deux ?
Les deux, ta vie, quoi.
Ok. Du coup, moi, c'est Laura, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une femme, donc je suis une femme entrepreneur. J'ai déjà, dans un premier temps, un organisme de formation qui s'appelle l'Atelier de la Chef, enfin, la boîte à cookies, qui a une formation qui s'appelle l'Atelier de la Chef et qui accompagne des femmes à développer leur business. Et étant donné que je suis un papillon et que je peux être un papillon de jour ou un papillon de nuit, j'ai deux facettes. Je suis aussi start-upeuse je suis en cours de lancement d'un projet d'application qui vise à mettre en relation des télétravailleurs et des lieux vacants, dans l'objectif, effectivement, de ne pas avoir à créer de nouveaux lieux dans lesquels travailler et de mettre en relation les humains, justement. Et pour finir, je pense qu'effectivement, je suis humainement une personne qui connecte les gens entre eux, parce que j'adore ça, créer ce sentiment de communauté engagée, de groupe qui s'entraide. Et je pense aussi que c'est pour ça que si j'étais un livre, je serais le livre de Marie Beauchesne qui parle justement de branding et de communauté engagée. Donc voilà, je crois que c'est... on a fait le tour.
Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours professionnel et justement cette vocation de mettre les personnes en lien ? Est-ce que ça t'est apparu au cours du temps ou est-ce que c'est assez récent ?
Dès mon plus jeune âge, quand j'étais petite, j'étais souvent la fille qui faisait rire tout le monde et qui fédérait les copains et les copines autour d'une cause commune, qui n'était pas forcément bonne d'ailleurs. Parce que souvent, c'était pour faire des bêtises. Mais en tout cas, oui, j'étais cette personne-là. Donc, si tu veux, moi, je pense que nos vies sont déjà un peu toutes tracées dès qu'on est plus petit. J'ai un profil atypique aussi, du coup. HPI, dyslexique, dysorthographique. Il faut se faire sa place tout de suite. Et en fait, j'ai très vite compris en étant jeune que c'était marche ou crève à l'époque. Donc, j'ai très vite affirmé mon fort caractère pour montrer que, quelle que soit la situation, j'avais le droit d'exister et que je pouvais aussi m'adapter aux situations qui n'étaient pas les miennes. Donc, voilà. Et s'ensuit un parcours, effectivement, aussi atypique. Donc, l'école, les méthodes pédagogiques de l'école ne me convenaient pas. Donc, j'ai beaucoup compensé pendant des années jusqu'à arriver au Master 1 où, effectivement, j'ai... Mon corps et ma tête ont un peu pété un plomb et j'ai décidé de tout quitter pour commencer ma première aventure entrepreneuriale à 23 ans, du coup. Et lorsque je suis sortie de cette école, je me suis dit, je veux vraiment transmettre... Alors déjà, je veux en apprendre plus que ce que je ne sais déjà. Et mon objectif, ça va être d'utiliser mon métier à bon escient, parce que le marketing, la communication et tout ce qui s'ensuit, c'est pas, enfin, ce sont des métiers qui sont pas forcément très bien vus. Et si tu les utilises de manière malsaine, ça peut être très, très, enfin, très manipulateur. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces outils-là pour faire le bien autour de moi et effectivement connecter les gens qui m'entouraient à travers la communication, entre autres. Donc, j'ai débuté mon parcours en accompagnant des femmes qui en avaient réellement besoin et surtout qui voulaient faire le bien autour d'elles, donc des femmes qui étaient dans le bien-être au tout départ. S'ensuit un constat, toutes les femmes ont besoin d'aide, pas seulement celles qui sont dans le bien-être. Et donc, j'avais à cœur de transmettre ce que moi j'avais appris au cours de mon aventure entrepreneuriale et donc j'ai fini par monter une plateforme de formation dans laquelle j'ai décidé de placer l'humain au centre. Mais quand je parle d'humain au centre, c'est pas seulement du greenwashing, donc c'est-à-dire que de manière très concrète, c'est une plateforme qui est en ligne, les masterclass sont au visio, mais il y a des rencontres annuelles qui sont physiques, et c'est surtout que toute cette formation est basée autour de l'humain avec des méthodes de développement personnel, car pour moi, il est nécessaire de se développer soi avant de développer son business. Il faut avoir un bon mindset pour pouvoir entreprendre. Je pense que c'est la clé du succès, vraiment. Outre l'aspect technique, je pense que le mindset fait 80% du job. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'humain, effectivement, pour moi, est au cœur de l'entrepreneuriat. Et c'est pas seulement dire pour socialement remplir sa conscience, quoi. Mais plutôt une réalité. Et je pense que c'est ce qui fonctionne, justement. Voilà. Un peu mon parcours. Et issu de cette expérience-là, j'ai fait le constat qu'effectivement c'était compliqué pour nous en tant que solopreneurs de trouver des lieux pour travailler qui étaient accessibles en fonction de nos budgets. Et donc s'ouvre à moi les portes de la start-up, de l'innovation. Donc voilà, c'est en process.
Super. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise plutôt que d'intégrer une entreprise ?
En fait, je me suis toujours rendu compte que j'avais des idées qui étaient toutes tracées, que je savais plutôt très bien où est-ce que je voulais aller, mais qu'on me mettait toujours des bâtons dans les roues et qu'on avait les gens que je côtoyais n'avaient jamais la même vision que la mienne. Et le fait de pas pouvoir prendre mes propres décisions, ça me bloquait réellement. D'autant plus que j'ai été dans des grosses entreprises avec des managements... c'était un management très vertical, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu proposes une idée qui, toi, tu en es persuadé, va fonctionner. Tu peux même mettre à l'appui de la data, etc., etc. Tu peux faire des PowerPoints sur lesquels tu vas passer des heures, mais quoi qu'il en soit, tu as 22 ans et tu es en bas de l'échelle. Donc, c'est très généralement pas ta vision qu'on va présélectionner pour impulser l'entreprise. Donc, je trouve ça dommage. Et moi, ça m'a un peu révoltée. Je supporte très peu l'injustice. Ça peut être parfois même un point négatif. Hein. On en parlera peut-être plus tard, mais mais effectivement, je supporte très mal l'injustice et donc j'ai un peu à cœur à me révolter dès que ça me convient pas, quoi. En tout cas, dès que je pense que la vision n'est pas juste. Donc c'est ce qui a précipité mon départ. De mon alternance et de mon école parce qu'effectivement j'avais vraiment ce sentiment de ne pas être écoutée. Alors j'étais entendue, hein, mais on ne m'écoutait pas et on ne prenait pas en considération ma vision. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de travailler pour moi, vraiment. Après je ne dis pas que je retournerai jamais dans le salariat, j'en ai aucune idée. Mais à date, si je retourne dans le salariat, c'est dans 20 ans, quoi. 30, 40 même peut-être. J'en sais rien, mais c'est pas prévu du tout pour tout de suite.
Quelles étaient tes difficultés ou tes croyances quand tu t'es lancée dans la création d'entreprise ?
Waouh ! Bah, y en avait plein, comme tout le monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais justement de prise de confiance en moi, d'échelle de prise de confiance en moi et d'évolution entre le moment où je suis devenue entrepreneur et maintenant. Parce que pour le coup, je pense que... le fait d'apprendre seul et d'expérimenter et de se voir évoluer et avancer, Ça te permet vraiment d'avoir, d'accélérer la prise de confiance en soi, je pense. Alors au départ, mes croyances limitantes, c'était je suis trop jeune. En fait, j'avais des croyances limitantes qu'on m'avait imposées depuis toute petite. Donc moi, j'avais trop souvent entendu les normes et à force de les avoir entendues et écoutées, j'ai fini par par y penser vraiment, quoi, en fait. Donc c'était oui, je suis trop jeune, j'y arriverai pas. Je suis une femme dans un monde d'hommes, donc je vais me faire marcher sur les pieds. Pourquoi moi j'y arriverai et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je devrais réussir à faire de l'argent alors que depuis toute petite, j'ai jamais eu un parcours familial qui m'a permise, on va dire, de vivre avec une situation monétaire très aisée? Donc tout ça réuni, effectivement, c'est compliqué. Et par contre, enfin. Moi, ce qui m'a vachement permise d'évoluer, pour le coup, c'est ma curiosité et ma persévérance. Parce que le fait d'être curieuse, c'est « Ok, pourquoi est-ce que je ressens ça ? Pourquoi est-ce que je me pose ces questions-là ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ?» Et en fait, derrière, ben, tu vas chercher les solutions à tes problématiques. Et ça, c'est chouette. Et de toute manière, quand tu n'as vraiment pas envie de faire quelque chose, donc retourner dans le salariat pour ma part, je peux te dire que les solutions, tu vas les trouver. Tu persévères et tu vas trouver les solutions à tes problèmes.
Et est-ce que tu as utilisé des outils ou des pratiques ludiques que tu pourrais nous partager qui t'ont aidé justement à switcher ces croyances ?
Alors, ouais, j'ai fait pas mal de choses. Alors, déjà, je me suis formée. Et ça, c'est important. Parce que ça m'a aidé à prendre confiance en moi dans le sens où j'ai commencé à avoir une évolution technique. Et je pense qu'avant même de rompre les croyances limitantes liées au fait qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, c'est important de se former pour structurer sa vision et son entreprise. Parce que lorsque tu structures, tu t'aperçois que tu obtiens des résultats. Quand tu obtiens des résultats, tu te rends compte que tu es bonne à faire quelque chose. Quand tu es bonne à faire quelque chose, effectivement, tu te rends compte que finalement, tu peux y arriver. Et donc, ensuite, arrivent les croyances limitantes qui sont, elles, à mes yeux, un peu moins compliquées à rompre. C'est toutes celles qui sont liées à ton ego. Par exemple, et là-dessus, moi, j'ai beaucoup bossé grâce à... Alors, j'ai fait plusieurs exercices. Alors, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du détachement de traumatisme qui m'a permis d'aller chercher dans mon inconscient tout ce qui avait été enfoui depuis des années, mon passé familial très compliqué, etc., pour justement évincer toutes les croyances limitantes que ce passé m'avait imposées, envoyer le message au conscient que finalement... il pouvait y avoir des situations et des croyances qui étaient autres que celles que moi j'avais toujours incarnées. J'ai aussi fait beaucoup de développement personnel, donc ça passe à travers de l'écriture, de l'introspection. J'ai lu beaucoup de livres qui sont liés à l'introspection justement. D'ailleurs, la semaine de 4 heures est un livre très business, mais qui demande aussi énormément de travail sur soi. Et qui demande aussi à se poser beaucoup de questions sur soi. Donc moi, j'encourage vraiment les personnes qui nous écoutent à le lire. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je pense qu'il faut aussi comprendre que le développement personnel, c'est pas seulement de la remise en question de soi-même, mais c'est surtout se poser la question de ce que je suis, ce que j'ai et ce que je veux, en fait. Et à mon avis, il ne faut pas forcément voir ça comme étant une perpétuelle remise en question, en se demandant tout le temps « je suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas ça ». Vraiment, à mon avis, la clé du succès, c'est vraiment la vision positive. Et plutôt que de tourner les choses de manière négative, essayer de le tourner au positif, et déjà tout de suite, dans le cerveau, ça prend un impact qui est différent.
Super. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, dans ton processus de start-upeuse, tu rencontres encore des croyances ou des difficultés qui te challengent ?
Ah ouais ! Alors en fait, c'est ce que je disais aux filles dans ma formation, là, l'autre jour, je leur disais, il y a 2-3 mois, là, je leur disais, Alors là, je suis mal parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que j'en suis au même stade que vous. Donc en fait, je reprends tout du début. Donc je repasse par les mêmes étapes. Donc je rencontre les mêmes craintes, les mêmes peurs, etc. Et en fait, je leur ai dit, ça me fait du bien, je crois, de me remettre à votre place un petit peu, parce que moi, je suis toujours en train de les pousser, tu vois, à aller de l'avant. Parfois, il y a des réticences, tu vois, que j'entends, et je m'adapte. Mais le fait de le ressentir, c'est d'autant plus impactant, tu vois. Et effectivement, j'ai ce sentiment de, et si ça fonctionne pas, et si j'y arrive pas. Et la plus grosse crainte de ces derniers mois, c'était comment je vais faire pour gérer deux entreprises. Et en fait, je me suis rendu compte, et pendant longtemps, j'ai procrastiné sur mon projet d'application parce que je voulais absolument que le premier projet soit suffisamment stable, en tout cas à mon goût, pour que je puisse lancer. Je me suis rendu compte que une entreprise, c'est stable, mais je veux dire, il y a toujours des aléas, quoi, tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Il y a toujours des aléas. Et donc, j'ai beaucoup procrastiné sur ce projet. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai même cherché des personnes à qui poser des questions qui avaient plusieurs entreprises pour leur demander comment ils géraient. Et je me suis rendu compte que, en fait, la seule manière de le savoir, c'était de le faire. C'était d'essayer, tu vois. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fini par faire. Et finalement, pour le moment, ça fonctionne, tu vois. Les perspectives d'évolution d'un côté ou de l'autre sont très bonnes. Au niveau de l'organisme de formation, moi, je bosse plus que deux jours par semaine. Donc, tu vois, c'était mon objectif de janvier 2023. Et ça continue de tourner. Les filles sont super contentes de l'accompagnement que je leur mets à disposition. Et de l'autre côté, je vois le projet d'application évoluer là en ce moment, tu vois. Donc, je me dis que c'est vraiment chouette. Mais il y a toujours cette peur de « et si ?» Et en plus, le pire dans tout ça, c'est quand tous tes projets deviennent publics et que derrière, tu te dis « si j'échoue, même si l'échec est un passage obligatoire vers la voie du succès, si j'échoue, je vais être obligée d'en parler publiquement. » Et là, admettre l'échec aux yeux du monde, moi, je crois que c'est encore un sujet sur lequel j'ai beaucoup de travail.
Alors, si mes informations sont bonnes, tu as été retenue, choisie pour représenter l'entrepreneuriat au féminin à l'île Maurice. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait quand on pense à toi pour ce type d'événement ?
Waouh ! J'étais très contente, très émue. Pour être honnête, je savais pas vraiment dans quoi j'allais m'embarquer, mais j'ai dit oui tout de suite. Et ça a été une expérience incroyable. Ça a été une expérience incroyable parce que j'ai rencontré des entrepreneurs du monde, de l'océan Indien, enfin entre autres de l'océan Indien, et je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de me plaindre. J'avais pas le droit de me plaindre et que c'était des gens qui étaient tellement courageux. Et quand je suis rentrée de ce voyage-là, pour te dire à quel point la semaine m'a transformée, c'est que de base, j'étais partie avant ça pour me racheter une voiture. Acheter un leasing, un truc trop chouette, une voiture toute neuve, enfin bref. Je suis partie là-bas, je me suis dit, Laura, tu vas garder ton pot de yaourt tout pourri et tu vas attendre que ce truc-là meure avant de racheter une voiture et de faire un caprice. D'accord ? Moi, ma mère m'a toujours dit quand j'étais petite, il y a des gens qui n'ont rien à bouffer dans ce monde. Et c'est vrai. Donc, autant te dire que ma voiture, elle est nulle, elle fait beaucoup de bruit, elle tremble parfois sur la 4 voies quand je roule, enfin bref. Mais pour autant, elle roule, donc je vais arrêter de faire un caprice et je vais pas en racheter une. La deuxième chose que je me suis dite en rentrant, c'est la prochaine personne qui prend contact avec moi, par exemple, pour intégrer une formation, pour avoir accès au savoir, et qui passe son temps à se plaindre, et que moi, je passe mon temps à devoir la convaincre que cette solution est bonne pour elle, je lui dirais qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Parce que quand j'ai rencontré ces entrepreneurs, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait d'avoir accès au savoir, et je me suis dit que c'était pas normal qu'on en vienne au point d'être capricieux lorsque on t'offrait une solution adéquate de peur d'être arnaqué, de peur de tout ça, tu vois. Donc moi, je me suis dit, Étant donné que j'ai plus envie de rentrer dans la confrontation à ce sujet, tu vois, je vais juste être moi et partir du principe que, ben, moi je sais ce que ça vaut. Et si tu ne veux pas en prendre conscience de ton côté, ben c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Finalement, on peut pas sauver tout le monde et c'est comme ça. Parce que j'ai accompagné une femme à créer un de ses pitchs justement pour lever des fonds lorsque j'étais à Maurice. C'était une petite Comorienne qui avait créé son magasin d'épices bio aux Comores. Ça n'existait pas. Elle était la seule à avoir créé ce projet d'innovation, Khadija. Et j'ai jamais vu autant de reconnaissance dans ses yeux, quoi. Il n'y avait aucun échange monétaire, hein, et c'était pas du tout l'objectif de base. Mais je veux dire, le fait de voir cette paillette dans ses yeux, quoi. Moi, je lui ai dit, mais je suis la plus heureuse du monde, en fait. Vraiment, j'étais trop contente. Et donc, je me suis dit, ben voilà, 2023, objectif 2023, je veux faire de l'humanitaire. Je suis en pourparler avec Rodrigue pour pouvoir aller donner quelques formations là-bas. Enfin, oui, vraiment, j'ai envie d'aider ces gens qui ont besoin, en fait, et qui n'ont pas forcément ces ressources financières. Voilà.
Qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui souhaiterait se lancer dans la création d'entreprise ?
Allez-y. Franchement, la question que je vais vous demander de vous poser, c'est... qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer ? On est dans un pays où de toute manière, on peut toujours faire retour en arrière parce qu'on a toujours des solutions ou en tout cas un parachute financier. En réalité, quand t'as été employé, tu as Pôle emploi, quand tu ne l'es plus, tu peux prétendre au RSA. Enfin, je veux dire, il y a tellement de solutions et en plus, il y a tellement de possibilités d'accompagnement financier venant de l'État pour les personnes qui veulent entreprendre que franchement, l'argent ne doit pas être une excuse pour ne pas se lancer. À mon avis, c'est vraiment ça. Et je parle essentiellement de ce point-là parce que moi, c'est vraiment les retours que j'en ai le plus souvent. Que l'argent est tabou, que j'ai besoin d'argent pour vivre, que... j'en suis consciente, hein, et oui, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, des solutions existent et qu'il ne faut pas se cacher derrière ça pour cacher ses propres peurs parce que c'est se saboter soi-même et finalement, c'est s'empêcher de vivre par passion et je trouve que c'est dommage.
Alors, si tu veux bien nous partager cette information, combien de temps il t'a fallu pour arriver à ton chiffre d'affaires actuel ? Donc, si tu veux bien nous partager un peu ces éléments.
Ouais, carrément. Alors, en fait, moi, je me suis lancée il y a 2 ans, mais la première année, c'était un peu à tâtons. Je venais de finir des années d'études, puisque n'oublions pas, nous sommes à l'école depuis de plus jeune âge. Hein. Donc, la première année, j'étais un peu en voyage vacances, donc j'ai pas trop cherché à... pas trop forcé, quoi. C'était plus playa et rhum, quoi. Donc, on va dire que j'ai vraiment commencé à me focus sur mon projet en septembre 2021 et que j'ai atteint mon chiffre d'affaires idéal en août 2022. Après, ça signifie pas que j'ai fait mon chiffre d'affaires idéal tous les mois. C'est différent. Parce qu'en fait, l'année dernière, pour vous donner une idée, j'ai fait un chiffre d'affaires qui est plutôt petit, j'ai pas fait énormément de bénéfices sur l'année. J'ai fait 3 ou 4 000 euros de bénéfices parce que j'ai passé mon année... Alors déjà, j'ai monté ma SASU en mars. Donc, on peut considérer que l'entreprise est vraiment existante, en tout cas l'organisme de formation depuis le mois de mars. C'est la première année, du coup, de l'OF. Parce que j'ai énormément investi. Et investi en moi, investi sur les autres aussi. J'ai recruté 2 alternantes. J'ai investi dans de nombreuses formations. J'ai toujours une coach qui m'accompagne. J'ai eu une coach business, là j'ai une coach LinkedIn. Les filles, les alternantes ont elles aussi des coachs parce que pour moi, les compétences et la motivation, ce sont les deux clés du succès. Donc la motivation, on l'a parce qu'on se donne des objectifs. Typiquement, l'objectif premier, c'était que Raphaël, mon alternante, puisse venir à la réunion lorsqu'on allait atteindre ce fameux chiffre d'affaires idéal, chose qui a été faite, elle est venue en novembre. Notre prochain objectif, c'est Bali, en septembre. Donc la motivation est là, mais on a besoin d'optimiser nos compétences et de structurer. Et ça, c'était le travail de l'année dernière. Et lorsque tu structures et que tu te formes, tu as moins de temps à consacrer à ton client et à ton client idéal. Donc, tu prends moins de clients, en fait. Moi, je préfère capitaliser sur la qualité de l'accompagnement plutôt que de prendre trop de femmes et de se rendre compte que finalement, effectivement, je peux pas toutes les accompagner correctement. Donc, ça a été un choix. J'ai pas fait un chiffre d'affaires exceptionnel. Il y a même des mois où... on s'est dit oulala, panique à bord, qu'est-ce qui se passe, comment on paye les factures. Mais en fait, c'est le jeu. Soit tu décides de t'octroyer une base solide, quitte à avoir un peu de risque financier. Soit tu décides de développer ton entreprise très vite, très fort, tout de suite, sans forcément structurer. Et donc, généralement, ça ne dure qu'un temps, puisque en fait, ta courbe, elle n'est pas stable. Donc, c'est dommage. Et c'est surtout que quand tu développes très vite, il y a beaucoup d'investissements qui se font autour et parfois même plus d'investissements que de ton chiffre d'affaires puisque faut que tu recrutes rapidement, etc., etc. Donc, c'est un parti pris, mais c'est quand même très dangereux d'opter pour cette solution quand on est solopreneur de base et qu'on se construit un modèle idéal, quoi. Voilà.
Super.
J'espère avoir répondu à ta question.
Oui, oui, oui.
Ok.
Super. Je passe à la partie organisation qui est un peu mon dada. Comment sont rythmées tes journées? Est-ce que tu as des journées types ou des actions types que tu répètes régulièrement?
Ouais. Alors, je commence mes journées tout le temps par une routine matinale, puis une routine de productivité. Routine matinale, c'est genre je prends le temps de boire un café, prendre mon petit-déj, et commencer à réfléchir à ce que je veux faire dans la journée, mais j'essaye de le faire sans écran, par exemple. Alors, je dis pas que je le fais à chaque fois, mais j'essaie. Après, je me fais une petite routine de productivité. Donc là, c'est le moment où je traite mes mails, je check tous mes messages sur les réseaux sociaux. Je lis mes contenus de veille que j'ai mis de côté ou bien sinon j'ai déjà une liste. Généralement, j'essaie de regarder une vidéo de mindset. Voilà. Et ensuite débute ma journée. Il faut savoir que j'ai pas vraiment de journée type puisque elle s'organise un peu à la semaine pour le coup. J'ai une vision plutôt long terme de mon planning, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, etc. En revanche, j'ai pas de journée type, ça n'existe pas. J'ai une journée type dans le mois, c'est ma journée de création de contenu. Voilà. Qui elle est posée tous les mois et que je ne néglige pas. Et ensuite, en revanche, j'ai des thématiques. Enfin, j'ai un jour par entreprise. Donc, le lundi et le vendredi, je suis sur l'atelier de la chef, donc sur la boîte à cookies. Et le mercredi, jeudi, vendredi, je suis sur l'application, ainsi que le samedi, je me laisse le samedi de rab pour l'une ou l'autre entreprise en cas d'urgence, si jamais j'ai vraiment des choses à terminer, quoi. Voilà.
Quel est ton outil favori qui t'aide dans ton organisation?
Asana. Qui n'est pas l'ami de tout le monde. Mais Asana est plus ou moins le concurrent de Notion, on va dire. En large. Hein, dans les fonctionnalités, pas tant. Mais en large, ouais, effectivement, c'est aussi un outil de gestion de projet. Et moi, j'ai choisi Asana parce que j'aime beaucoup l'ergonomie et les fonctionnalités qui sont à ma disposition sur le mode gratuit. Pour le coup. Et alors, sachez-le, petit tip, si vous avez une adresse mail entreprise, vous avez accès à des fonctionnalités en plus gratuitement. Et je ne suis pas sponsor Asana.
Ça marche super. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditrices pour mettre en place justement une communication, un branding qui soit optimal, impactant.
Se connaître et savoir ce que j'ai envie de diffuser comme message. Parce que lorsque tu communiques, tu as tendance à beaucoup regarder ce que font les autres et à te comparer. Le problème étant, c'est que déjà, se comparer, ça sert à rien parce que personne n'est parti du même point et que personne n'a les mêmes capacités et qu'on n'a pas tous le même vécu et qu'on n'a même pas tous les mêmes objectifs. Voilà. Donc pour moi, se comparer, ça sert pas à grand-chose. En revanche, se connaître, c'est très important puisque tu peux alors diffuser une communication unique, authentique, qui te ressemble et qui donc attire à toi des personnes qui ont des valeurs communes. Et vraiment, pour moi, ça c'est la règle numéro un lorsque tu décides de communiquer. Et on parle beaucoup en ce moment du coup de personal branding. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, le personal branding, c'est essentiellement basé là-dessus. C'est-à-dire qui je suis en tant qu'expert ou en tant qu'experte et comment je peux apporter de la valeur ajoutée aux personnes à qui je vais m'adresser en fait. Et ça tourne aussi effectivement à travers le fait d'avoir une reconnaissance visuelle de ce que tu incarnes parce que effectivement l'objectif c'est que en un coup d'œil dans un fil d'actualité, je puisse reconnaître Christelle à travers ses couleurs sans même avoir lu son texte.
Ok, et sur les outils de communication, donc il y a énormément de, on va dire, de réseaux sociaux. Est-ce que il est préférable de commencer par un réseau et se l'approprier, ou est-ce qu'on peut commencer dès le début à diversifier? Comment toi tu verrais la chose?
Alors il y a tout plein de techniques là-dessus. T'as certains experts qui vont te dire un, d'autres plusieurs. Alors moi, je pense que c'est important de se tester sur plusieurs. Je m'explique. C'est important de se tester sur plusieurs parce que à force de faire de l'A/B testing, tu vas comprendre déjà quel est le réseau social que toi, tu préfères utiliser et exploiter. Quel est le réseau social sur lequel tu parviens à avoir le plus de retours sur investissement et quel est le réseau social sur lequel se situe réellement ta cible. Pour moi, c'est important dans un premier temps, quand on commence une stratégie, d'essayer de développer plusieurs canaux et ensuite, en fonction de ces A/B testing, justement, de réguler en fonction des canaux qui fonctionnent réellement. Moi, c'est la technique que j'ai toujours utilisée. Alors, c'est énergivore hein, au départ. Puis très rapidement, si tu mets en place une stratégie, en fait, ça le devient bien moins. Même voire plus du tout, puisque tu as des idées à l'appel et puis que le mécanisme il est mis en place et que tu sais de quoi tu dois parler, etc. Et ensuite, c'est surtout que ça devient très, très, très qualitatif dans le temps et que les réseaux sociaux, c'est... Tu n'as absolument pas de résultats sur un temps très court, sur de l'organique. Sur de la publicité payante, oui, effectivement, tu peux avoir des résultats facilement, mais sur de l'organique, c'est beaucoup. Enfin, il faut être patient, en fait. Faut être patient, régulier, persévérer. Mais par contre, les résultats sont fantastiques lorsque tu persévères. Nous, ça fait 2 ans qu'on entretient nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, les personnes qui nous contactent sur nos réseaux sociaux intègrent pratiquement toute la formation. Parce qu'on a qualifié notre audience et parce que bah du coup les personnes qui te contactent elles savent déjà ce qu'elles ont envie de faire quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Donc effectivement, alors ce sont des outils qui sont fabuleux, il faut juste les utiliser correctement, trouver son message et persévérer. Enfin, prendre le temps d'obtenir des résultats mais sur le long terme effectivement.
Comment on fait pour déterminer justement sa cible? Qu'est-ce qui va faire que on va aller plus communiquer vers une cible qu'une autre?
Alors, l'idée c'est de pouvoir identifier son client idéal. Le client idéal, il est similaire à ce que je suis généralement à hauteur de 80% pour des petites entreprises, entrepreneurs, même voire pour des projets d'innovation parfois. Ne faisons pas une généralité de ce constat-là parce que ça fonctionnera pas pour des grosses boîtes, par exemple. Par contre, pour les entrepreneurs et les indépendants, ça fonctionne. À 80%, parce que du coup, tu as généralement créé ton entreprise parce que autour de toi, tu as réalisé un constat, tu as trouvé des problématiques, tu as identifié un besoin dont tu as besoin toi-même ou dont tu es toi-même victime sur une problématique. À 20%, pourquoi? Parce que personne n'est pareil. Et que forcément, tu as des similitudes, mais tu as aussi des éléments de différenciation avec les personnes avec que tu veux accompagner ou à qui tu parles. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, c'est aussi nécessaire de se positionner sur les pain points de ta cible. C'est important de la connaître à travers ce qu'elle est, ce qu'elle fait. C'est-à-dire que la cible de l'époque, Robert, 50 ans, père au foyer, deux enfants, un chien, un chat, ça, on s'en tape. Hein. Aujourd'hui, ça ne te sert plus à rien. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment identifier le parcours utilisateur. Robert, qu'est-ce qu'il aime faire? Où est-ce que tu peux le trouver? Pourquoi il aurait besoin de toi? Il fait quoi le matin quand il se réveille? Qu'est-ce qu'il mange? Enfin, tu vois, c'est vraiment très spécifique, mais en fait, c'est ce qui te permet factuellement ben, d'aller dire à Robert... Je t'ai trouvé sur le groupe de recettes de mamie parce que je sais que t'aimes bien manger, mais quand même temps, t'as des problématiques. Bah oui, tu veux bien manger, mais tu sais pas cuisiner. Enfin voilà, je donne un exemple très bref, mais dans l'idée, c'est ça. Et aujourd'hui, l'expérience utilisateur, elle a été vachement améliorée grâce à toutes les innovations numériques qu'on a dans notre monde, entre autres. Et les usages qu'on met à disposition de notre cible. Donc, bah, nous, il faut qu'on fasse pareil. Hein. Si tu veux vraiment toucher ton interlocuteur, il faut vraiment que tu le connaisses et que tu apprennes à connaître l'humain et pas juste la personne que tu veux mettre dans une case.
Est-ce que tu valides l'expression, ou du moins la vision que j'ai, moi, que la cible, notre cible en tout cas, correspond souvent à... notre personnalité, à notre profil?
Ah ouais, carrément. Carrément. Et c'est aussi pour ça que c'est important de diffuser ses valeurs et ses propres valeurs et son message dans sa communication ou dans ses réseaux sociaux, par exemple. Parce que finalement, ça attire à toi la personne qui partage tes valeurs et tes principes. Et ça te permet aussi de créer une relation commerciale derrière beaucoup plus fluide. Parce que tu parles à des personnes qui ont les mêmes intérêts que les tiens. Donc finalement, tu les comprends comme elles te comprennent et vous arrivez forcément à trouver des points communs. Et ça, c'est chouette, c'est vraiment chouette.
Donc j'ai entendu souvent que trouver sa cible, c'était pas forcément très simple et évident. On peut déjà commencer par nous s'introspecter et voir ce qu'on aimerait partager aux autres, comment nous on fonctionne et qu'est-ce qui nous anime justement en tant que parcours client, ce qu'on aimerait vivre comme expérience. Et déjà ça peut nous aider à poser une base.
Ouais, ça peut t'aider à poser une base. Alors après, c'est très 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 important. C'est important de s'écouter. Et moi, je commence toujours par... accompagner les filles à se former sur le branding parce que c'est toute une partie d'introspection et donc comme ça elles ont vraiment conscience de ce qu'elles ont envie de véhiculer et à qui elles ont envie de parler et c'est comme ça qu'elles le trouvent le qui j'ai envie de parler donc je te suis là-dessus. Par contre, attention à bien écouter sa cible parce que n'oublions pas qu'il y a des éléments de différenciation et que la personne à qui tu vas proposer une solution c'est elle, c'est pas toi. Donc, c'est aussi important de l'écouter dans ce dont elle a besoin pour lui apporter la solution qui est la plus optimisée, effectivement.
Tu nous parlais tout à l'heure de ta journée communication qui est planifiée au mois. Qu'est-ce que tu mets dans cette journée? Comment elle est organisée?
Alors, on fait avec les filles, avec l'équipe, un comité éditorial par mois dans lequel on se partage l'éveil, dans lesquels on se partage les sujets sur lesquels on va communiquer sur les prochaines semaines, les campagnes qu'on a envie de mener à bien. À l'issue de tout ça, donc elles font le cahier éditorial en interne parce que moi, je leur ai déjà transmis toutes mes écritures, nombreuses écritures de toutes les idées que j'ai eues pendant les dernières semaines. Et leur job à elles, du coup, c'est de réutiliser ces idées et de les positionner dans un calendrier en les positionnant en fonction de tendances actuelles, en fonction des réseaux. Voilà. Donc ça. Et ensuite, chacune, on a nos tâches. Donc généralement, moi j'ai mes tâches de contenu à réaliser. Donc dans un premier temps, là, ce qu'on va commencer à mettre en place, ce que je ne fais pas encore, c'est que je crée un contenu long, donc un podcast par exemple, et que de ce podcast, on en déduit d'autres types de contenus, mais sur la même thématique pour dupliquer et éviter de s'épuiser. Donc je crée le podcast, Doriane crée à l'issue de ce podcast un article de blog, on le détaille aussi en mail et on le détaille ensuite en post pour nos réseaux sociaux.
Voilà. Super. Je passe maintenant à ce que j'appelle la question taboue. Tu nous parlais tout à l'heure de mindset. Quel est ton ingrédient magique qui, selon toi, fait ta réussite aujourd'hui ?
Bah, je pense que c'est... Alors, on va positionner ça dans la case du mindset du dirigeant, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait ma force, c'est mon management. Parce que j'ai réussi à créer une team qui se sent 100% dans le projet, en fait, tu vois. Enfin, moi, je leur dis tout le temps, on est une équipe et si je gagne, vous gagnez. Et si je perds, on perd ensemble, quoi. Mais je pense que c'est ma force parce que, franchement, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est vraiment pas facile. L'humain, c'est compliqué à gérer. Moi, j'ai toujours eu à cœur de ne jamais reproduire les types de management que j'ai subis parce que ça a été vraiment une forme de traumatisme pour moi. Donc, je suis très dans l'écoute, très dans la proposition, très dans la solution. On résout les choses ensemble. Je te forme. Si tu comprends pas, on continue d'optimiser, etc. A contrario, c'est aussi un risque parce que quand tu laisses beaucoup de portes ouvertes, il peut y avoir des personnes qui ont tendance à en profiter et donc à sortir un peu du cadre, un peu trop, et à pas respecter, disons, les prérequis que tu leur demandes, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça m'est fondamentalement pas encore arrivé, pour être honnête. Je suis toujours tombée sur des petites pépites, j'ai peur effectivement qu'un jour je tombe sur quelqu'un qui de par mon management un peu trop laxiste et beaucoup dans la confiance, dans l'accompagnement et dans le fait que je suis pas ta boss, hein, je suis ici pour t'accompagner en fait. Ben j'ai peur qu'un jour effectivement je tombe là-dessus. Donc c'est une force, mais je pense que ta plus grande force est aussi ta plus grande faiblesse.
C'est noté. Je passe maintenant à la question girly. Qui est, tu nous en as un peu parlé, mais qui est ta routine bien-être et sérénité? Est-ce que tu en as une qui te permet justement de pouvoir travailler 6 jours sur 7?
Alors, j'en avais pas avant 2023. Et j'ai décidé d'en mettre une en place, parce qu'effectivement, c'est important, là. Ça devenait important, parce que j'étais la première à dire n'oubliez pas le bien-être de l'entrepreneur, c'est très important. Et en fait, je me suis aperçue que moi, j'avais un peu perdu le mécanisme, ouais. À force de, je sais pas, j'étais dans mon truc, en fait, et donc j'ai perdu le fil et je me suis rendu compte que j'avais perdu. Donc, finalement, moi, ce que je m'impose, c'est, ce que je m'impose, ça avec plaisir, hein, ça va, c'est pas trop chiant. C'est, de faire, une activité sportive bien-être par semaine. Typiquement, j'ai testé l'aerial yoga cette semaine. La semaine prochaine, j'ai une séance d'aquasophrologie. J'étais à jardiner ses passions samedi dernier pour découvrir des expériences que moi je connais pas du tout, tu vois. Des bains sonores au gong, au machin, au truc. Donc je teste et puis finalement je me dis c'est cool. Franchement, ça me fait voir d'autres choses, ça me fait rencontrer une nouvelle personne et puis c'est surtout que ben à ces moments-là, je décroche complètement du taf, quoi. J'arrive à me présenter comme étant Laura et pas Laura avec deux entreprises. J'arrive à penser à autre chose que mes mails, mon travail, etc. Et donc, si tu trouves une activité comme ça qui te permet vraiment de prendre une pause, ben, c'est que généralement, c'est bon signe.
Super. Est-ce que nous arrivons à la fin de cette interview, est-ce que tu as un mantra ou une incantation qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours?
Tu vas y arriver.
Super. Donc, je sonne officiellement le clap de fin de ce podcast avec le portrait. Donc, le portrait, il s'agit tout simplement d'une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour, parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors, c'est parti. Laura reçoit. Laura, je perçois de toi une âme joyeuse qui poursuit ses rêves, son rêve sans relâche. Une petite embarcation partie du port comme pour vivre la grande traversée. Et au fur et à mesure du temps, la petite embarcation devient voilier et affronte des vagues et des tempêtes de plus en plus fortes. Mais la petite Laura a bien grandi maintenant, son voilier est lancé, rien ne l'arrête. Je perçois une force de caractère impactante et inspirante pour toutes celles qui souhaitent aussi partir à l'aventure. Une figure de proue ou un brise-glace que rien ne retient. Une personnalité qui assume et s'accueille à 100% dans sa folie des cookies. Je te souhaite, Laura, de continuer ta route pour toujours plus de liberté. Merci, Laura.
Bah, merci à toi, dis donc. C'était très joli. Bravo. Tu as une belle plume, Christelle.
Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, déjà, sous le nom de Laura Larivière. Je n'étonnerai personne, je pense. Et sur Instagram, sur Facebook et aussi sur LinkedIn avec la boîte à cookies. Et on n'a pas encore créé les réseaux sociaux pour l'application étant donné que c'est encore un projet à l'étape du baby. Donc, on en parlera peut-être plus tard. Peut-être bientôt même.
Ça marche. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour clôturer cet épisode ?
Bah, j'aimerais te remercier. Merci beaucoup pour cet accueil. C'était très chouette comme expérience. Ça fait du bien en début d'année comme ça de poser aussi ses intentions d'externaliser ce qu'on pense au quotidien. C'est vachement chouette. Je trouve que c'est aussi un très bel un très beau exercice d'introspection finalement.
Super.
Tout en sachant que rien n'a été préparé. Attention.
Rien n'a été préparé, ça c'est sûr. Et est-ce que tu veux nous partager ton challenge pour 2023 ?
Le voyage. 2023 est basé sous l'étoile du voyage. J'aimerais bien commencer à aller visiter d'autres horizons. On verra ce que ça donne. Parce qu'on est à l'abri de rien. Quand tu lances plusieurs projets, tu peux parfois être happé dans le travail. Mais l'avantage aussi, c'est que je peux bosser à distance. Donc c'est un peu le but. Cette année, on essaie de visiter d'autres contrées et d'autres cultures.
Super. Merci beaucoup, Laura.
Avec plaisir, Christelle.
Merci beaucoup Laura et Christelle pour ce moment que vous nous avez offert toutes les deux. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis beaucoup reconnu dans Laura. Laura disait que 80% généralement nos clients nous ressemblent à 80%. Bah je vais être un prochain client de Laura je pense, vu à quel point je me suis retrouvé en elle. Et parmi trois points qui m'ont vraiment marqué, le premier ça a été le côté quand Laura parle de l'importance du mindset pour un entrepreneur, une entrepreneuse. Et moi, ça me fait penser à la compétence, la qualité d'être dans l'autodiscipline. C'est-à-dire que c'est un concept que je retrouve dans beaucoup de livres, notamment récemment un livre que j'ai lu sur le leadership pour l'équipe de Nouvelle-Zélande de All Blacks de rugby. Et il disait que le caractère, c'était quelque chose de très important pour avoir des gens qui soient vraiment des leaders. Donc du caractère, la capacité que de même quand les lumières sont éteintes et qu'on n'est pas sur le devant de la scène. De pouvoir continuer à avoir cette forme de régularité dans la volonté de s'améliorer, d'être dans le développement du meilleur de soi, ce que disait comment Laura quand elle était toujours dans une forme d'élan de compréhension d'acquisition de compétences via la formation et également de la motivation, toujours trouver des nouveaux objectifs pour se motiver. Et donc le premier point que je retiens, c'est vraiment cette pour être Je pense à une qualité fondamentale d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, c'est vraiment cette faculté d'être dans l'autodiscipline, qui peut parfois faire peur, parce que comme disait Laura, ce dont elle avait peur, c'était de pouvoir être des fois trop dans le perfectionnisme. Et c'est vrai que on a vu beaucoup de posts surgir comme parfois en disant parfaitement imparfaite, etc., pour mettre en évidence qu'il fallait aussi des fois lâcher la pression en interne. Et en même temps, c'est important je pense, de conserver cet élan d'amélioration, parce que sinon, comme le dit Mathieu Ricard, si on se satisfait d'être comme on est, et ben si au quotidien on se sent parfois pas mal ballotté par les événements, et ben on continuera à être ballotté par les événements et à pas avoir forcément une vie qui soit totalement en adéquation avec les rêves qu'on a, en fait. Donc ça, c'est le premier truc qui me vient, c'est vraiment cette importance du caractère et de l'autodiscipline. Deuxièmement, et c'est un peu le lien par rapport à Laura a parlé de l'importance de faire de l'humanitaire, qu'elle avait vraiment envie de faire de l'humanitaire au niveau de l'année 2023. Et moi, je la rejoins totalement. Et notamment, je trouve que ça me fait penser toujours à une phrase de Paolo Sorrentino dans son film El Loro, le film sur Silvio Berlusconi, où à un moment donné, il y a une scène où il y a un des acteurs qui dit, en fait, les vendeurs, c'est les seules personnes qui parlent sans ne jamais écouter, parce qu'ils veulent que leur rêve devienne ton rêve. Et j'ai l'impression que parfois, quand on est entrepreneur, entrepreneuse, et ben on est un peu dans une position obligée d'être un peu dans le commercial et de faire que notre rêve devienne le rêve des gens au maximum. Et donc on a un peu une, ouais, je trouve qu'il y a toujours cette volonté d'être toujours, qu'est-ce que je peux faire pour mieux parler aux gens, mieux les convaincre. Et du coup, on peut à certains moments être moins à l'écoute du monde, dans une légèreté, une simplicité, et d'être dans le bénévolat, faire de l'humanitaire. Et ben ça permet à nouveau d'être à l'écoute simplement du monde qui nous entoure, d'être au service de la vie tout autour. Et je trouve que ça apporte beaucoup d'oxygène, de légèreté, et justement ça permet de faire une pause dans le perfectionnisme. Et même ça permet d'atteindre cet équilibre global entre essayer de modeler le monde extérieur à notre image ou d'essayer de vraiment tout faire pour imposer notre patte dans la société, et en même temps parfois se laisser remplir par toute la générosité ambiante, par les belles personnalités qu'on peut croiser, parce que exactement comme les paillettes dans les yeux de cette femme qu'elle a aidée, qu'a vu Laura, il y a parfois des personnes fantastiques qu'on croise et qui nous marquent énormément et qui nous redonnent un coup de boost justement pour nous lancer après avec encore plus de bonheur, de légèreté et même on sent une forme de crédibilité en nous d'avoir pu apporter autant de magie à une personne. Donc, premier point, le caractère. Deuxième point, faire de l'humanitaire pour s'apporter de la légèreté et de l'ouverture, un élan de la douceur. Et ce qui m'a beaucoup marqué, le troisième point, c'est la volonté de Laura d'offrir un management horizontal. Et moi, je trouve ça exceptionnel, parce que comme elle, je suis très touché. Quand c'est trop vertical, je sens pas quelque chose qui me correspond. Et encore... que cela, comme Laura l'évoque, ça correspond pas forcément à tout le monde non plus d'être un truc trop horizontal. Parfois, il y a des personnes qui préfèrent être plus drivées ou du coup, faut vraiment trouver les bonnes personnes qui vont adhérer à ça. Donc c'est pour ça que Laura dit, ouais, pour l'instant, j'ai de la chance, je suis tombé que sur des perles rares et j'espère que du coup, ça continuera. Mais du coup, je trouve ça génial parce que quand on trouve les bonnes personnes avec qui échanger avec beaucoup d'autonomie et de respect, ça apporte vraiment, on s'enrichit des compétences de chacun. On peut même se laisser surprendre par des idées d'autres personnes que nous, on n'aurait pas eues. C'est vraiment la force de l'intelligence collective. Et pour ça, je pense que ce qui est hyper important, c'est aussi de se connaître pour prendre sa part au sein d'une relation. C'est-à-dire que, par exemple, si on collabore avec quelqu'un qui, par exemple, la personne, elle va être très forte pour contacter humainement des personnes, mais par exemple, elle va être moins forte après pour structurer une offre, on peut du coup... La personne qui est forte dans le relationnel, elle peut aller contacter les personnes, et la personne qui est plus forte dans la structure d'idées peut après fournir une offre clé en main à la personne qui est bonne en relationnel, qui va pouvoir recontacter après son client et son prospect potentiel avec une offre hyper carrée, structurée. Et ce qui est beau, c'est que chacun aura mis ses compétences et ses qualités et son naturel au service de la réussite de la mission. Donc voilà, merci énormément Laura et Christelle pour cet épisode que j'ai énormément kiffé. et exposer le cadre.
Pour celles qui seraient pressées de commencer, je vous ai synthétisé les apprentissages de cet épisode en 3 points. La connaissance de soi. Et oui, on y revient. Laura a beaucoup travaillé et travaille encore sur la connaissance d'elle-même, son fonctionnement, ses croyances limitantes, son mindset pour aller débloquer et se détacher des traumatismes du passé. Pour ce faire, elle a beaucoup lu de livres sur le développement personnel, utilisé l'écriture pour s'introspecter et également se faire accompagner par des coachs pour se challenger dans divers domaines. Posez-vous la question de qui vous êtes, de ce que vous avez et de ce que vous voulez. Posez le tout par écrit et recommencez régulièrement cet exercice. Il vous aidera à clarifier vos pensées et vos objectifs. Vous pouvez également vous poser la question de qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et d'utiliser le même processus d'écriture que pour la question précédente. Une fois votre esprit clarifié, désencombré et vos objectifs identifiés, en 2, structurez votre vision. Quelle sera ma destination? Quelles seront les étapes du voyage? Appliquez la méthode des petits pas. Ils auront pour but de créer des résultats rapides, ce qui vous aidera à augmenter votre confiance en vous et d'y croire que tout est possible. En 3, cultivez un mindset positif. Et oui, soyez curieuse, persévérante dans vos entreprises. Un échec est le premier pas vers la réussite. Soyez motivée, apprenez de nouvelles choses pour gagner en compétences. Cela vous fera gagner en confiance. Mais surtout pour garder cet esprit du débutant qui vous ouvrira bien des portes. Soyez ouverte aux opportunités qui se présentent et amusez-vous. Cultivez la joie au quotidien. Un grand merci pour nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Retrouvez l'épisode et tous ses conseils sur le site internet christelleattic.fr/podcast. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce podcast est de vous donner beaucoup de contenu inspirant pour vous aider dans votre remise en question et vous faire sortir de votre zone de confiance. Si vous avez trouvé cet épisode enrichissant, je vous invite à 3 actions qui nous aident beaucoup dans notre mission. 1. Partagez cet épisode à une amie qui pourrait être inspirée par son contenu et ses conseils. En 2, vous abonnez au podcast sur votre plateforme préférée. Et en 3, nous laissez une note ou un commentaire pour nous aider et nous encourager dans notre mission. Alors, en attendant l'épisode du mois prochain, keep cool!